Il reste vraiment 25 minutes, c'est ça?
Très bien.
Vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Et prions. Je veux lire ta parole, Seigneur, et prêcher ton évangile et révéler qui tu es. Et Seigneur, j'ai travaillé et maintenant tu veux bénir ce travail, le rendre fécond. Et puis toutes les personnes qui sont là, Seigneur, que tu les disposes aussi à avoir une écoute sincère ou une rencontre vraie avec toi. Amen. J'ai les versets 1 à 12. On pourrait mettre le 13 aussi, mais bon, je vais m'arrêter à 12. Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant. Et on va lui rapporter que celui-ci gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus administrer mes affaires. Le gérant se dit en lui-même, mon maître va me retirer ma charge. Mais que faire? Je ne suis pas assez fort pour aller travailler à la terre. Et j'aurais honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire. Et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. Alors il fit venir, un à un, tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant dit, viens! Tiens, voici ton compte, assieds-toi et note 50. Puis il dit à l'autre, et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, voici ton compte, note 80. Eh bien, le maître félicita le gérant malhonnête d'avoir agi aussi habilement. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les autres que les gens qui appartiennent à la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans les petite chose est aussi digne de confiance dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui vous confiera les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour gérer ce qui appartient aux autres, qui vous donnera ce qui vous revient. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voici une histoire qui déroute beaucoup parmi toutes celles que Jésus a pu raconter. Car nous avons l'impression qu'il nous présente un tricheur. Il faudrait le suivre en exemple un peu. Un homme gâche pour rien les richesses de son maître. Le bruit court, le maître l'apprend, l'intendant fidèle va se faire épingler, licencier. Pris de panique, l'homme organise sa retraite quelque part en remettant des dettes aux débiteurs de son maître, le plus vite possible et au plus grand nombre possible. Lui qui gâchait la fortune de son maître pour rien, la gâche maintenant pour sauver sa situation. Et le maître semble féliciter cette... Comment il dit? D'avoir agi aussi habilement. Nous ne comprenons pas pourquoi le maître félicite cet homme, n'est-ce pas? Nous nous serions attendus à ce que l'histoire finisse et qu'il soit en prison ou que sa réputation soit remise en miettes, qu'il ne puisse plus travailler pour personne, bref, à une justice quelque part, non? Mais à y réfléchir, c'est pas la première fois que Jésus nous fait le coup du maître qu'on ne comprend pas. Non? La parabole des ouvriers de la dernière heure. Il y en a qui viennent dans la vigne le matin, ils triment toute la journée. Il y en a qui arrivent à midi. Il y en a qui arrivent, genre, pour les 2 dernières heures de lumière de la journée. À la fin, le maître, qu'est-ce qu'il fait? Il paye tout le monde pareil. Qui est d'accord? Franchement. Qui voudrait bosser pour un patron comme ça? Sincèrement. Remarque, on peut arriver tard du coup au boulot, ça peut être pas mal aussi, mais bon. Le berger, Jésus qui dit, mais qui d'entre vous, s'il a 99 brebis en haut de la colline et qu'il en perd une? La centième. Qui, bien sûr, qui ne va pas laisser 99 brebis en haut pour aller chercher celle qui est perdue? Et il le dit sur un ton d'évidence, mais franchement. Voilà. Je suis animateur, j'ai 100 gamins là. Il y en a un qui se barre. Je dis aux 99, bon, vous bougez pas, hein. Le père de la parabole du fils prodigue, qui restaure ce plus jeune fils qui est allé dépenser pour rien, mais tout son héritage dans une vie de débauche et qui revient et le père le restaure et le rhabille et lui repartage une partie de son héritage et tout ça. Qui agirait comme ça? Le semeur qui sème, mais n'importe comment, on l'avait vu, dans les rocailles, dans les épines, sur les chemins et aussi, bon, sur la bonne terre au passage, mais toutes ces figures révèlent des facettes de Dieu le Père. Et nous invite à changer notre regard sur ce qui est vraiment important, vraiment juste. Nous réapprenons à comprendre comment pense notre Dieu grâce aux enseignements de Jésus. Et je crois qu'il en va de même avec ce maître étrange de la parabole du serviteur infidèle. Il fonctionne pas comme on s'y attend, hein? Alors, Jésus, explique-nous. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les autres que les gens qui appartiennent à la lumière. Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Okay. Donc, l'intendant n'est pas salué d'avoir triché. Ce que Jésus pointe du doigt, c'est le sursaut de survie qu'il a eu et la façon dont il a pris soin de son avenir en utilisant la fortune de son maître. Et Jésus souligne que les enfants de ce monde, donc les païens, sont bien plus habiles dans leur façon de voir l'avenir arriver que les croyants. Et l'intendant habile crée une redevabilité avec celles et ceux qui étaient en dette avec son maître. Tu rends un service, tu me renverras l'ascenseur. Ça va. Il les aide pour qu'à leur tour, ils l'aident en retour. Et Jésus encourage les croyants à faire de même avec les biens périssables de ce monde, en sachant qu'à leur tour, les croyants seront bénis lorsqu'ils parviendront à la vie éternelle. Ce serait un peu l'évangile des œuvres. L'intendant habile, il compte sur la reconnaissance de ceux qui vont l'aider pour l'accueillir dans sa vie d'après. Ça va? Il compte sur la reconnaissance des gens qu'il a aidés pour l'accueillir dans sa vie post-licenciement. Ouais. Et le croyant, sur quoi compte-t-il pour être accueilli dans sa vie après la mort? Sur quoi compte-t-il? Sur la grâce de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Alors je compte sur la grâce de Dieu pour me donner la vie. Je compte recevoir de Dieu les biens impérissables du royaume, la vie éternelle, la résurrection, oui, l'adoption par grâce. Se peut-il que pour les biens périssables, je compte sur autre chose. peut-il que je croie dans la bonté, dans la grâce, dans la générosité de Dieu pour me partager ses richesses éternelles, ses biens impérissables, mais que je ne compte pas sur lui pour les biens périssables? Et voyez ce qu'il nous promet au baptême, un nouveau cœur, un nouveau corps, le pardon de tous tes péchés, je vais te draper de toute ma justice, je vais t'adopter dans ma famille, je vais partager avec moi mon héritage, parce que je suis sur le trône, dit Jésus, et j'ai tout reçu, et tout ça, tu vas le gérer avec moi. Bon, qu'est-ce qu'il pourrait nous donner de plus? Pas facile à trouver, hein? Tu vas vivre éternellement dans un corps qui sera incorruptible. Tu ne connaîtras plus la souffrance, la peine, l'angoisse, la peur. Tu vas avoir une vie éternelle où tu auras accès à tout ce qui existe en communion avec des gens qui t'aimeront pour toujours. Et il y aura Jésus qui sera là en train de régner sur toute cette joie. Et voilà, c'est cadeau. J'ai tout en Christ. Mais si le Seigneur me donne tout le royaume et en partage avec mes frères et sœurs en Christ, est-ce qu'il est généreux, ce Seigneur? On va dire, bon, mais je te sauve. OK. Non, je te sauve pour vivre comme un prince ou comme une princesse. Oui, Dieu est généreux. Alors Jésus nous avertit. Celui qui est digne de confiance dans les petites choses est aussi digne de confiance dans les grandes choses. Ça va? Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes choses. D'accord? Ça, c'est pour revendiquer pour un casier judiciaire vierge pour les élus de la République. Non, je blague. Mais quand même. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, si vous n'avez pas été digne de confiance pour utiliser les choses périssables de ce monde, d'accord? Qui vous confiera les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour gérer ce qui appartient aux autres, qui vous donnera ce qui vous revient? Bon, là, il faut comprendre que dans le contexte de Jésus, tu commences d'abord pour bosser pour un patron, puis après, tu deviens toi-même propriétaire. Donc, tu commences par bosser pour gérer les biens, les richesses des autres, et puis ensuite, tu crées ton patrimoine. Nous, on se dirait, ben non, on commence par utiliser nos richesses, mais pas à cette époque-là. Pour le Seigneur, il existe un lien entre notre relation aux biens passagers de ce monde et notre relation au bien éternel de ce monde. Comme tu dépenses ton argent, dépense la grâce que tu as reçue. Bon, je dis ça un peu au pif, mais imaginez quelqu'un qui ne partage jamais sa table, ne viennent manger chez lui que ceux qui vraiment, voilà, sont. C'est la famille, c'est le sang, quoi. Est-ce qu'il trouvera, verra d'un bon œil des personnes, des étrangers venir manger à la table du Seigneur? Quelqu'un qui se sent très méritant du salaire qu'il a gagné, du patrimoine qu'il a construit, n'aura-t-il pas tendance à se sentir un petit peu méritant du salut qu'il a eu par sa foi en Jésus-Christ et transformé une foi en œuvre? Ceux qui savent être fidèles à Dieu dans l'usage qu'ils ont des biens passagers de ce monde se verront confier les biens éternels de ce monde pour bénir autrui. La grâce que j'ai reçue de Dieu m'est confiée pour faire grâce à mon tour de la part de Dieu. L'espérance que j'ai reçue de Dieu m'est confiée pour donner l'espérance à mon tour à ceux qui n'en ont point. La vie éternelle que j'ai reçue de Dieu m'est confiée pour appeler à la vie celles et ceux qui m'entourent. Mais comment pourrais-je partager l'espérance en Christ si je ferme mon cœur à celui qui souffre pour ne pas être troublé dans mon petit confort? Il y a un lien entre ce que je ferai des biens spirituels qui m'ont été donnés et la manière dont je gère mes biens matériels ou mon temps ou ma présence. Mon attention. Je m'adresse maintenant aux anciens. Mais ce que je vais leur dire est vrai pour tout chrétien. Car un ancien est un chrétien appelé à une tâche spécifique, mais il reste un chrétien parmi les autres. Ce qui est vrai aussi du pasteur, au passage. Dans l'épître de Paul à Tite, l'apôtre encourage son disciple à choisir des anciens qui ne coupent pas leur vie en deux. Mettre d'un côté la foi, ah oui, alors quand, en tant que chrétien, à l'église, blablabla, puis d'un autre côté, bon ben, ma vie quotidienne à gérer, quoi. Où il y aurait une espèce de grande différence entre ce que je crois vis-à-vis de Dieu, ma relation à Dieu, et puis ce que je vis dans mon petit quotidien. Mais à l'inverse, des anciens qui, tels qu'ils sont au travail, tels ils sont entre frères et sœurs en Christ. Tels ils sont à la maison, tels ils sont à la réunion de prière. Je ne suis pas en train de vouloir vous dire il faut que vous déballiez toute votre vie intime à la réunion de prière. Non. Mais de ne pas être un hypocrite, c'est-à-dire de porter un masque. L'hypocrite en grec, c'est celui qui est derrière le masque, c'est l'acteur. Si tu veux être un bon administrateur des biens du royaume, des cieux éternels, impérissables, je dois être un bon administrateur des biens périssables et éphémères de ce monde. En comptant que tout ce qui m'a été donné, tout ce que j'ai, que ce soit matériel ou spirituel, que ce soit ma situation financière ou ben, la paix dans laquelle ma famille se trouve en ce moment, que ce soit la compréhension des Écritures qui fait que j'ai la certitude d'être sauvé, ou que ce soit un talent particulier pour tel ou tel domaine de la vie, tout me vient de la même main. C'est la même main qui m'a donné mon salaire ce mois-ci que la main qui m'a versé dans mon cœur l'assurance du salut. C'est la même. Et si je compte sur la générosité de cette main pour, au jour du jugement dernier, me sauver, est-ce que je vais faire ma pince dans les choses matérielles de ce monde en disant non, non mais là, on parle business quand même. La grâce pour moi, et dans nos relations là, on va être sérieux quand même. Non. Je compte sur toi, Seigneur, pour me sauver au jour du jugement dernier, avec foi. Et si je ne trouve pas comment compter sur elle aujourd'hui pour partager mon pain, mon temps, mon foyer, mon travail, mon argent, et révéler la générosité de mon Dieu et de mes amis, de mes proches, de mes collègues, de mes voisins, de celui que je croise. Est-ce que ma foi dans le salut est vraiment fondée? Mais est-ce que je veux dire ou pas? Je ne suis pas en train de dire que si tu ne fais pas ça, Dieu va te retirer le salut. Non. C'est juste, comment est-ce que je peux savoir que je compte vraiment sur Dieu pour le jour d'après ma mort? Si je vois que aujourd'hui déjà, je compte vraiment sur lui. Comment je vais voir que je compte vraiment sur lui aujourd'hui? En regardant si tout ce que j'ai me vient de lui et que je le gère comme tel, ou si tout ce que j'ai me vient. Non, mais j'ai fait les bons choix quand même. De moi. Alors, j'aurai l'assurance d'être accueilli dans les demeures éternelles. Non pas parce que j'ai fait le bien, mais parce que je sais au plus profond de moi que je ne doute pas de la générosité du Seigneur. Parce que le Seigneur est généreux. Amen.